check it.
Blaster.
Yeah. Les bad boys sont là, là, là. Les rude boys sont là, là, dans la main. Les bad boys sont là.
Eh ouais, les bad boys et les rude boys sont là. Alors je sais pas si on est tous des rude boys ici dans le studio de Radio Campus Tour 99.5. Il est presque 18h15. C'est Ghetto Blaster, c'est Seb. Je suis toujours en compagnie d'Axel. Salut Axel.
Salut Seb.
Rude boy ou pas?
Rude boy, toujours.
Rude boy Tourangeau.
Tourangeau, évidemment.
Et avec nous, Nesta Lion.
Bonjour, bonjour Seb, bonjour Axel.
On continue un peu la tournée des sorties. On chôme pas ici à Ghetto Blaster, à Radio Campus Tour. Après crossover en tout début de semaine, ce soir, place au reggae avec un artiste tourangeau qui pas mal de nouveautés à nous faire découvrir avec une sortie d'un album tout prochainement, c'est ça?
C'est ça, un album qui va sortir le 10 mai.
On rappelle le nom?
Le nom de l'album, ce sera Part 2. Alors, partie 2 en anglais, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un double album que je sors et la partie 1 est en français qui sortira au mois d'octobre et qui sera du coup connoté World Music.
Ok.
Ce sera complètement différent.
Partout que les auditrices auditeurs de Radio Campus Tour connaissent déjà un petit peu parce qu'il y a trois titres dont on a eu le droit de pouvoir les écouter d'abord et de les faire tourner ensuite, donc on est en terre connue avec les premiers titres disponibles de cet album. Alors Nesta Lion, ça fait un petit moment que tu nous as dit que tu n'étais pas venu à Radio Campus Tour.
C'est ça, je crois que la dernière fois, ça devait être en 2013-2014. À l'époque, c'était pour la sortie de mon EP Nesta Acoustique. Voilà.
Et du coup, on va faire peut-être un petit rappel un petit peu ton parcours artistique, qui tu es. Déjà, rien que le nom d'artiste Nesta Lion, ça évoque plein de choses. C'est déjà en soi tout un programme. Et en plus, les programmes, c'est d'actu de parler de programme.
Tout à fait. Donc ce que tu veux, c'est ce que je te raconte pourquoi Nesta Lion, je suppose.
Ah bah par exemple.
Alors Nesta, pourquoi Nesta? Parce que Nesta, c'était le deuxième prénom de Bob Marley qui s'appelait Robert Nesta Marley. Donc c'est nullement à titre comparatif, c'est simplement parce que c'est quelqu'un qui dans ma vie m'a apporté beaucoup par ses paroles, par sa musique, et c'est une façon pour moi de lui rendre hommage. Et Lion, tout simplement parce que le lion, c'est mon animal esprit. Voilà.
Et puis je crois que le lion aussi a toute une symbolique dans la culture rasta. Je pense au lion d'Abyssinie. Alors je sais pas si je m'égare ou si c'est ça, mais je crois qu'il y a,
c'est ça,
y a
c'est
tout un truc.
C'est tout à fait ça, mais ça n'a rien à voir pour moi en tout cas en ce qui concerne. J'aurais très bien pu m'appeler Nesta Tiger ou autre chose, mais là c'est vraiment parce que le lion, c'est un animal qui me fascine depuis que je suis tout petit. J'ai regardé tous les documentaires sur les félins et notamment sur les lions. Et puis c'est l'animal qui me correspond le plus. C'est vraiment un animal totem, un animal esprit, voilà.
Et puisqu'on parle du lion, à quel moment toi t'as planté tes griffes dans l'univers reggae? Tu mords à quel moment là-dedans dans cette culture?
J'ai mordu très jeune parce que mon père il m'a élevé au reggae, il m'a élevé à la soul aussi. Et puis en 2003, c'est là vraiment où j'ai décidé de m'attaquer à une carrière artistique. Voilà, depuis 2003 en fait, je suis autodidacte, j'ai tout appris tout seul à chanter, je joue de guitare, de clavier, percussion. Enfin, j'ai vraiment tout appris tout seul et puis c'est à partir de là que j'ai commencé. Je me suis dit, si parce que j'ai une philosophie de vie aussi, en me disant que quand on entreprend quelque chose, si la vie elle est d'accord avec toi, elle va faire en sorte que tu aies des opportunités. Et puis bah moi, ça va pas arrêter depuis 2003, voilà.
Ok. Et tout à l'heure, en antenne, en préparant aussi cette émission avec Axel, nous disait que le reggae, c'était un des rares courants parmi tous les courants musicaux qui drainait avec lui une culture extrêmement forte. Donc tu viens en partie d'apporter quelques éléments de réponse, mais est-ce que toi aussi c'est toute la culture qui va avec on peut parler de Bob Marley, mais donc du coup on parle aussi de la Jamaïque et de tout ce qui s'est passé dans l'histoire de cette musique qui est pas qu'une musique
Non, c'est comme tu dis une culture, et moi évidemment ça m'a fortement parlé puisque je suis français certes, mais j'ai des origines africaines, et évidemment la période de l'esclavage, le continent africain, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Et dans les paroles justement de Bob Marley, mais aussi de tous les autres artistes, c'est quelque chose qui a toujours parlé à mon cœur. Et du coup, je me suis vraiment retrouvé dans cette culture. Et puis voilà quoi, c'est quelque chose avec lequel j'adhère évidemment. Et puis que j'ai envie de supporter, que j'ai envie de faire et que j'ai envie de faire connaître, même si le reggae est connu partout dans le monde.
Et Bob Marley, il est pas pour rien.
Non, il est pas pour rien, c'est sûr.
Surtout qu'en plus, tu fais du... Enfin, ça se rende sur plein de styles, mais du roots reggae notamment. Est-ce qu'on pourrait qualifier ça de musique, finalement, qui prend en compte l'aspect, la croyance, tout ce qui est Rastafari?
Tout à fait, ouais. Moi, je suis un fanatique du reggae des années 70, parce que je pense que c'est là que le vrai message Rasta, que je mets entre guillemets, mais reggae en tout cas pour moi, est passé, c'est-à-dire paix, amour, unité entre les peuples, puisque dans la suite, notamment aujourd'hui, il y a quand même quelques coins reggae, ou issus du reggae en tout cas, avec qui ont des idées que je partage pas du tout, comme par exemple l'homophobie, tout simplement.
Et c'est intéressant parce qu'on disait aussi, on en parlait hors antenne, que le reggae c'était au début... Enfin, même le rocksteady, assez violent, vu que c'était les gangs en Jamaïque qui faisaient écho en musique. Est-ce que c'est une partie qui t'intéresse aussi, malgré que ce soit à l'encontre du message que tu as dans ta musique?
Alors, violent, oui et non. En fait, c'était la musique du pop, c'était la musique des rude boys, comme on dit, c'est-à-dire les jeunes du ghetto, on les appelait des rude boys. Mais la violence en Jamaïque, elle a toujours été présente. Mais c'était surtout la débrouillardise, en fait. Et notamment, le ragamuffin, c'est un terme jamaïcain qui veut dire être débrouillard, la débrouillardise. Mais violent... Je pense que le rocksteady, ça parlait surtout beaucoup, 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 beaucoup d'amour.
Après, c'est peut-être le voyage du rocksteady vers les contrées britanniques et oui. La façon dont ça a été après digéré aussi par les classes populaires londoniennes qui ont drainé aussi les phénomènes. Je pense que Nesta, qui a eu la chance de pouvoir aller sur des scènes à Londres, a peut-être aussi vu toute cette culture en Angleterre autour de toute la culture reggae, rocksteady et des phénomènes de société que ça a généré aussi.
En Angleterre, à Brixton notamment, là où il y a la grosse partie de la communauté jamaïcaine, effectivement, oui, la réalité que les jeunes issus de Jamaïque ont trouvé en Angleterre était socialement vraiment différente. Et puis ça a été aussi une façon à eux de revendiquer un peu les choses, un peu leurs droits, et puis de faire face aux violences policières qui ont été vraiment très très féroces, très très féroces à l'époque là-bas, quoi. Mais oui, à Brixton, en tout cas, il y a une grosse communauté jamaïcaine. Ça, c'est vrai.
Avant d'écouter peut-être un premier titre, on va peut-être aussi rappeler que cet album, il a une particularité, c'est que tu l'as écrit, composé en anglais.
C'est ça.
Et les raisons, alors, outre l'amour immodéré pour la langue de Shakespeare...
Alors la raison, alors à la base je devais sortir un album tout simple en français, pas du tout reggae, world music avec quand même quelques morceaux reggae et un ou deux morceaux anglais pour l'international, et puis avec la crise sanitaire, donc je suis resté pratiquement 2 ans sans faire de scène, Et quand je suis allé en Angleterre en 2019, du coup, la personne qui m'a fait venir, Jackie, elle m'avait programmé une tournée en Angleterre en 2019, d'octobre à décembre, et puis je devais participer à un gros festival à Londres, mais avec la crise sanitaire, tout ça c'est passé à côté. Et puis voyant un peu ce qui se passait en France, je me disais que ça allait être compliqué en tant qu'artiste de pouvoir refaire des scènes. Donc Jackie n'arrêtait pas de me dire, écoute, faire un album... en anglais, reggae, et moi je pourrais être promotionné à l'extérieur. Et donc bah, du coup c'est devenu un double album et on a privilégié donc cette partie là à faire sortir en premier, même si c'est part 2, ça sera partie 1.
Oui. Petit pied de nez, voilà, petit contre-pied. Ouais. Mais Bob Marley était pas dégueulasse au foot, donc le contre-pied,
oui,
on a le droit.
On a le droit, ouais, tout à fait, ouais. Une feinte.
Une feinte. On va s'écouter un premier titre tout de suite, bah justement pour se mettre pleinement dans l'ambiance de cet album. On va s'écouter Foreign Land, donc sur l'album à sortir de Nesta Lyon. Nesta Lion, Foreign Land sur Radio Campus Tour 99.5 et dans Ghetto Blaster en live, en direct sur Radio Campus avec Seb, Axel.
Ouais, et tout à l'heure on a pu un peu parler de live, notamment en Angleterre, où ils n'ont pas tous pu avoir lieu malheureusement. T'as fait plus de 500 dates, j'ai l'impression que le live c'est important. Qu'est-ce que ça t'apporte en plus? Tu joues en plus avec tes musiciens, donc The Fragments en ce moment. Est-ce que tu es plus live que studio et quelle est l'importance de donner vie à ta musique face à une foule?
Ben pour moi, la musique, c'est vivant, donc c'est le live qui est important. En studio, le travail n'est pas du tout le même. Là, en live, tu es devant le public, là, c'est toi, quoi. Tu envoies des vibrations aux gens, tu en reçois, mais c'est là qu'on voit la qualité d'un artiste, c'est sur le live, parce qu'en studio, avec toutes les technologies d'aujourd'hui, même quelqu'un qui sait pas chanter, il peut te faire un truc super, quoi.
J'ai l'impression que toi, quand même, tu t'accordes à avoir des instruments live, même en studio, il me semble. Est-ce que l'album, par exemple, a été fait avec des instruments MIDI, tout était relié, ou quand même il y avait des instruments acoustiques?
La plupart ça a été fait avec ordinateur, mmh. Parce que quand tu fais un album il y a un budget, mmh. Et mon budget, moi, il était déjà bien puisé sur la partie en français, donc pour la partie en anglais avec le label de Diff Record, label indépendant à Nantes que je big up au passage, avec mon ami Jérôme Blainville. On a décidé de faire ça, notamment par MAO, mais ça m'a pas empêché de faire venir des musiciens pour refaire soit des batteries, soit des basses, ou mon guitariste actuel, Nicolas Schuller des Fragments, qui refait des guitares dessus. Mais c'est vrai que si j'avais pu faire des instruments live sur l'album, je l'aurais fait, mais après c'est une question de moyens aussi.
Mais tu vas quand même, du coup, j'imagine un retravail pour les lives qui vont s'annoncer, notamment le 30 avril avec la soirée privée. Du coup, il y a quand même toute cette préparation que vous avez, j'imagine, commencé avec The Fragments.
Oui, ça fait depuis le mois de novembre qu'on bosse dessus. Et effectivement, ouais, on a revu un peu tous les arrangements par rapport à ce qui a été fait sur l'album. Et puis j'ai des nouvelles choristes aussi, du coup, trois chœurs, donc le travail avec trois chœurs et quatre voix en plus avec la mienne, c'est un autre travail encore que quand on a que deux choristes ou une seule, et on est en train vraiment de préparer un super show, mais ça va être les versions vont être vraiment différentes de ce qu'on va entendre sur l'album, oui.
Et d'ailleurs, ouais.
Vas-y Axel.
D'ailleurs, comment t'as rencontré The Fragments? Parce que t'as pas toujours travaillé avec eux, ça reste assez récent.
C'est ça, on travaille, ça va faire presque un an maintenant. Alors en fait, les Fragments, c'est des musiciens qui ont un autre groupe qui s'appelle Kaleid, un groupe qui commence à prendre un peu d'ampleur à Tours.
On a déjà reçu ici dans Ghetto Blaster, on voilà. Les big up aussi du coup.
Voilà, je les big up aussi, et du coup mon ingé son Steph me dit: ah tiens, il y a un nouveau groupe de reggae français à Tours, je bosse avec eux, ils jouent au Serpent Volant, tu devrais passer. Donc je suis allé les voir, j'étais voir leurs prestations, j'ai plutôt vraiment apprécié ce qui s'est passé, et puis en sortie de concert, du coup, j'ai discuté avec le bassiste Jocelyn. Et Jocelyn me dit: ah, mais on a un projet de backing band aussi, on aimerait monter un backing band. Donc je lui dis: bah écoute, moi ça pourrait m'intéresser. Et puis voilà quoi. Après on s'est revus, on a discuté et puis on a mis ça en place.
Ouais, parce que c'était ça aussi. Là, du coup, tu t'es entouré de plein d'autres musiciens. Il y a du monde, en fait, autour. Tu parlais des choristes.
Oui.
Du coup, tout ce petit monde-là gravite dans la sphère tourangelle. Il y a une scène un peu reggae ici, sur Tours, qui vit aussi, qui fait des choses. Parce que c'est vrai que nous, quand on dans nos actus musicales, c'est vrai qu'on parle souvent de la scène jazz tourangelle. Mais peut-être la scène reggae, on met un petit coup de projo dessus aussi.
Ben on peut mettre un petit coup de projo dessus. Après, je suis pas très, j'ai pas beaucoup de relations avec la scène reggae locale, à vrai dire. Je suis un artiste, ça fait 10 ans que je suis ici, mais je viens de Normandie. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Tours, j'ai eu un peu de mal avec la scène locale au niveau reggae. Et oui, il y a forcément de bons artistes. Bah, il y a Kaleid, il y a mon pote TSR. Il y avait avant aussi. Mr. Cordeon aussi, qui est parti aux États-Unis maintenant, mais que je big up aussi, parce que quand je suis arrivé, il m'a bien aidé. Après, il y a les plus connus, donc Brahim et puis Bigaranx. Oui. J'étais en train de chercher son nom. Enfin voilà, il y a quand même, il y a aussi Hustle on Bustle qui de maintenant redevient Hustle, qui est en train de préparer des choses aussi avec mon ami Messaoud. Donc oui, il y a une scène reggae quand même assez importante. Mais je trouve qu'à Tours, le reggae est pas assez programmé, en tout cas sur les festivals et dans les salles qu'il peut y avoir à Tours et autour. Il y a pas suffisamment de reggae. Alors s'il vous plaît, programmez le reggae, parce que c'est une musique de jeunes encore, bien sûr.
Ouais, et qui draine en plus plusieurs esthétiques aussi
tout
dans la
fait.
Grande famille des musiques reggae. Et en plus, voilà. Pour tout vous dire, hors antenne, on discutait des festivals qui se tiennent actuellement, et on dirait qu'on déplorait aussi le fait que dans les off en fait des festivals, il y avait pas toujours, c'était pas toujours évident de trouver l'endroit, le spot où était programmé du reggae. Et c'est vrai que ça serait pas mal de faire un petit retour en force, alors par de l'ordre moral, mais du reggae, ouais.
Tout à fait. Ah bah, je milite pour.
Terre du son, écoute-nous quoi.
Ouais, bah, Terre du son, c'est compliqué hein, d'aller jouer chez eux. Aïe aïe aïe.
Et on parlait des gens avec qui t'avais travaillé. J'ai vu que t'avais travaillé avec Sébastien Baronet, qui est un rhythm maker espagnol.
C'est ça.
Je vais te demander là une précision. Il est originaire de quelle ville en Espagne? Il est sur la scène.
Je crois qu'il est de Barcelone.
Et voilà. Et en fait, je voulais venir aussi à ça. Bah, ça tombe bien. Savoir si t'avais des liens un peu avec la scène des rhythm un peu barcelonaise, parce que on reçoit beaucoup, nous, de super prods qui tabassent bien, que ça soit reggae ou dub venu de Barcelone. Et, alors, est-ce que c'est un choix de ta part? Est-ce que c'est une rencontre comme ça fortuite qui s'est faite
C'est une rencontre fortuite qui s'est faite il y a maintenant 8 ans sur Facebook. J'avais posté des morceaux à moi, et puis il m'avait interpellé en disant qu'il aimait bien, et il me disait que c'était un rhythm maker. Et qu'il avait un rhythm, il me disait d'aller voir sur YouTube, donc je suis allé voir, donc c'était un rhythm déjà qui marchait bien, hein. Je crois qu'il y avait déjà au moins 100 000 vues, un truc comme ça. Et puis je l'ai écouté, je lui ai dit, ah ouais, je le kiffe ton rhythm, et je lui ai dit, bah j'aimerais bien poser dessus. Donc il m'a dit, ok, pas de problème, il me l'a envoyé, j'ai fait une première version. Et puis là pour l'album, du coup, la version un peu revisitée, un peu différente. Et voilà, en tout cas, ouais, non, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Sébastien. On a de très très bons rapports. Et bah, il fait pas que ça d'ailleurs, il est tatoueur aussi, il fait de super beaux tatouages.
Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est vrai qu'on pense pas toujours à l'Espagne comme un spot, voilà, de la musique. C'est pas le premier pays qu'on va avoir en tête quand on pense au reggae. Il y a une,
et pourtant.
Voilà, il y a des super trucs qui viennent, notamment de Barcelone. Il y a des chouettes trucs.
Est-ce que ça t'a ouvert des portes, du coup, de rencontrer ce producteur et peut-être faire des lives là-bas, il me semble pas.
Non, pas pour l'instant. Ça m'a pas ouvert plus de portes que ça, mis à part d'avoir travaillé avec lui. Mais c'est à voir. En tout cas, l'Espagne, c'est pas avec cet album en anglais, en tout cas, parce qu'en français, c'est plus compliqué de s'exporter à l'étranger. Ouais. Mais avec un album en anglais, ça risque de changer la donne. Mais le monde hispanique, en tout cas, même en Amérique du Sud, il y a d'excellentes prods, hein. J'ai écouté des trucs qui venaient d'Argentine, du Brésil, même du Venezuela, de Cuba aussi. Il y a pas très longtemps, j'ai découvert un groupe de reggae de Cuba, mais c'est terrible, 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 terrible.
Et ben, puis de toute façon, la vie est faite pour qu'on apprenne plein de choses.
Bien sûr.
Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais oui. On va écouter un titre qui s'appelle Life to Learn. Moi, perso, c'est celui vraiment que je prends le plus de plaisir à écouter. On va se l'écouter tout de suite, toujours sur Radio Campus. Nesta Lyon, Life to Learn, c'est parti.
no, never give up, oh no.
On est bien, on est toujours sur le 99.5 Radio Campus Tour, la suite de ce Ghetto Blaster avec Nesta Lyon qui nous fait partager des titres de son album à sortir très très prochainement et puis très très vite aussi un concert à Tours. Rappelez la date, le lieu, les modalités d'accès à ce concert aussi.
Alors donc c'est une avant-première de sortie de l'album qui aura lieu le 30 avril à Arcopole à Tourneur. Alors apparemment Arcopole c'est pas beaucoup connu mais ça fait pas longtemps que ça existe, c'est 4 rue Germaine Richier, c'est juste à côté de la douane. Ouais. Et c'est donc un
on fera pas de mauvaise blague à ce sujet.
Ouais, ouais. C'est pour ça que je me marre un peu. Et c'est donc un concert privé parce que j'ai invité tous les gens qui me sont proches, tous mes amis, tous ceux qui ont collaboré à l'album, mais j'ai aussi voulu ouvrir au public la possibilité de venir nous voir en live. Donc il y a 120 places de disponibles. Il y en a 60 sur mon site internet sur www.nestalion.com et il y en a 60 autres qui sont en vente à la Belle Époque rue du Commerce le lundi, le mercredi et le jeudi de 13h à 20h. Voilà.
Donc voilà, tu as toutes les infos, tu y vas, tu partages, tu
et dépêchez-vous parce que c'est la semaine prochaine.
Ouais,
et il reste plus beaucoup de places d'après ce que j'ai pu comprendre.
Et puis peut-être un petit mot aussi sur le label qui a permis de produire cet album, Diff Records, qui est un label nantais, je crois, c'est
oui,
ça ?
Oui, qui se trouve dans la région de Nantes. Alors c'est un de mes... c'est mon frère de son depuis long time, on se connaît depuis 2002. Et puis il y a 5 ans, il a monté son propre label indépendant. Et puis il a commencé à faire signer un artiste, puis deux, et puis il est venu me voir, il m'a dit « Ouais, j'aimerais bien te produire ». Et puis du coup on a discuté, et puis on a mis une collaboration ensemble, parce que je voulais pas non plus lui laisser toutes les clés, je voulais quand même garder un peu la main sur les choses qui allaient se faire. Voilà. Et comme ça c'est une collaboration à 50-50 tous les deux, mais c'est super.
Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus ? Parce que juste avant, tu étais indépendant,
oui.
Il me semble bien. Donc, qu'est-ce que ça t'a facilité ? Est-ce que ça t'a ouvert des portes ? Même si le label débutait lui aussi, mais...
Ça m'a permis, surtout au niveau de la production de la musique, d'avoir un petit peu moins d'argent à devoir sortir et puis à compter aussi sur ses compétences, parce que c'est un rhythm maker, c'est quelqu'un, le reggae, il connaît ça par cœur, hein. Et du coup, il m'a apporté toute son expérience dans ce domaine, et je le remercie vraiment sincèrement parce que il a fait de l'excellent travail.
Après, de l'expérience, t'en manquais pas non plus parce que t'as quand même pas mal tourné, t'as fait des premières parties d'artistes comme Yannis Audois, t'as goûté un petit peu à la scène londonienne. Donc pour ceux qui auraient une pointe de doute, qu'ils n'hésitent pas, parce qu'en fait t'es déjà bien inscrit dans le circuit. En tout cas, la scène c'est un truc qui est... Tu kiffes
Oui, hein, j'ai fait toutes sortes de scènes en plus, hein, aussi bien les petits bars pourris où il y a pas grand monde, où il y a personne qui t'écoute, comme des festivals importants. Alors après, j'ai jamais vraiment fait un gros festival, comme tu dirais. J'ai fait Terre du Son, si. Il y a, ça devait être en 2015, je crois, mais c'était pas sur les deux grosses scènes, c'était sur une scène à côté. Et puis, j'ai fait des festivals moyens, mais des grosses scènes comme les Francopholies ou le Printemps de Bourges ou le Sunska. Tout, pour l'instant, ça c'est pour moi c'est pas accessible, puisque je peux raconter une petite anecdote. Donc quand je cherchais à faire des gros festivals, du coup un jour programmateur me dit mais si je mets ton nom à l'affiche, ça va pas me faire vendre de billets. Donc je lui dis non, ça va pas te faire vendre de billets. Il me fait donc si je te mets à l'affiche, en fait je te fais de la promo, donc tu me dois 3 000 euros, quoi.
En fait le rapport était inversé.
C'est comme ça que ça se passe.
Ouais, mais bon, ils ont peut-être oublié aussi que t'avais fait quelques dates à Londres et que t'avais tapé dans l'œil quand même de certaines presses spécialisées qui s'étaient étonnées de voir un Frenchie.
C'est ça.
Ouais.
Dans le blog de Brixton, ouais, tout à fait. Mais je remercie Jackie, hein, parce que c'est pareil, hein, ça s'est fait comme ça. J'ai mon meilleur ami qui habite à Londres. Et puis il est né en septembre, donc je lui dis « Ah Greg, je vais venir pour ton anniv. » Et je lui dis « Écoute, je chante aussi en anglais. » Après, je suis pas bilingue, mais quand même, ça va. Mais je lui dis, j'aimerais bien me confronter aux Anglais, quoi, aux Américains, quand même, pour savoir si j'ai le niveau. Enfin, voilà, puisque souvent on me dit, ouais, t'as un accent français. J'ai voulu vérifier ça. Et du coup, je mets une annonce sur Facebook si vous avez des plans pour jouer. Je voulais jouer dans un pub, moi, je voulais même pas faire autre chose. Et du coup, il y a une production à Londres, c'est le Black Sun Rising Production qui me contacte et qui me dit, ouais, envoie-nous des sons. Et puis, donc j'envoie des sons, elle me renvoie un mail, elle me dit, bon, je t'ai trouvé une date dans un club. À Londres, je fais, ok. Et puis, deux jours après, elle me dit, je t'ai trouvé une date dans un pub. Je dis, ok. Puis après, elle me dit, je t'ai trouvé une date à Brixton.
Paradis.
Ouais. Donc, elle m'a récupéré à l'aéroport. Donc, c'est Jackie qui organise un gros festival à Londres. Et puis, quand je suis allé jouer à Brixton, du coup, c'est sur une scène quand même qui est très connue, où t'as Nani, dans le quartier de Brixton. Quand tu rentres dans les loges, de toute façon, t'as toutes les affiches de tous les gros qui sont passés, Aswad, Yellowman, enfin, ils y sont tous, quoi, Prince Allah, enfin, voilà, tous. Et je jouais en première partie de Prince Amor, qui est, un Jamaïcain très connu, quoi. Et ça, j'étais pas au courant. Voilà, et puis elle m'a mis devant le fait accompli, donc je suis monté sur scène, très stressé, j'ai chanté mes 5 morceaux en première partie, et puis quand je suis descendu de scène, il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui m'ont félicité, qui m'ont dit, là mon accent français apparemment c'est pas si français que ça, d'après ce que j'ai pu comprendre, en tout cas il n'y avait pas vraiment de problème, quoi. Donc ça m'a réconforté quand même en me disant que ça le faisait.
Excuse-moi, Axel.
Est-ce que tu sens une dynamique différente entre la scène à Brixton ou même anglaise que tu as pu faire dans les pubs et celle française? Vu que finalement, ça s'ancre plus en Angleterre, le reggae.
Le reggae là-bas, c'est une institution. C'est pas comme en France. Y a beaucoup de Jamaïcains qui vivent là-bas. Donc, si tu vas là-bas, c'est. On va dire, c'est la médaille d'argent. La médaille d'or, c'est la Jamaïque, et la médaille d'argent, c'est Brixton, quoi. Et oui, c'est une scène quand même très importante. Et en tout cas, là-bas, le reggae, c'est pas. Il y en a à Brixton, en tout cas, il y en a partout, hein, du matin au soir, toute la nuit. Tu n'entends que ça, quoi. Et je kiffe ce quartier. C'est le quartier que je préfère à Londres, d'ailleurs. C'est vraiment là où je me suis senti chez moi.
Et outre l'accent frenchy, il y a l'écriture et la composition des textes en anglais, des textes qui sont pas du tout accessoires, loin de là, parce que tu abordes dans tes titres des sujets qui te sont personnels, mais aussi des sujets sociétaux, dirait-on, internationaux aussi, qui nous concernent tous, qui parlent de nos vies ici dans ce bas monde, c'est ça.
C'est ça. Je m'inspire toujours de mon vécu, quoi qu'il arrive. Et puis j'essaye de parler à un maximum de gens, mais effectivement, oui, les thèmes que j'aborde, et les termes parfois un peu controversés comme la traite négrière ou l'État palestinien, et puis d'autres choses où je parle aussi pas mal de spiritualité, puisque c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur et qui fait partie de ma vie, donc je suis obligé d'en parler, puis un peu d'amour aussi, et puis un peu une critique, parfois un peu... on va dire ironique de la société dans laquelle on vit aujourd'hui.
Ouais, ça a toujours été des thèmes qu'on... Enfin, en tout cas, l'amateur de reggae qui cherche un bon album de reggae recherche aussi ces thématiques-là. On chante pas, on parle pas pour ne rien dire, quoi.
C'est ça, tout à fait.
Ça n'a pas été un peu difficile de retranscrire tous ces messages en anglais? C'est quand même un travail d'écriture et on peut utiliser moins de mots, évidemment. J'imagine que tu te débrouilles bien tout de même en anglais, mais... ça reste moins fluide qu'un français dans notre tête, en tout cas.
Ça m'a demandé plus de temps pour trouver les bonnes tournures, mais je me suis aussi servi du patois jamaïcain, parce que le patois jamaïcain, ça permet quand même de parfois tourner des phrases qui, dans un anglais académique, strictement académique, ne seraient pas bonnes. Mais avec le patois, ça, c'est nickel.
Ça partait avec des bases, quoi. J'imagine que ça, oui. Le patois, tu l'avais déjà au moins appris à force d'écouter des sons, en fait. Ça,
à force d'écouter du reggae, oui. Il y a des fois, je me disais, mais je comprends pas ce qu'il raconte. Et puis, en regardant les paroles, donc j'ai compris que tel mot, en fait, voulait dire telle chose. Par exemple, « tu » en anglais, en jamaïcain, ça se dit « fi ». Voilà, on dit pas « mi », ça se dit « me » en anglais, mais c'est « mi » en jamaïcain. On dit pas « ar », on dit « a ». Voilà, enfin, il y a plein de choses. On dit pas « ve », on dit « dem ». Voilà, il y a plein de trucs comme ça dans le patois jamaïcain qui permet de faire des phrases un peu différentes.
Okay. Et puis t'as pas toujours été de ce côté-là du micro, t'as aussi été dans ta carrière un peu aussi de l'autre côté, on va dire, à l'ingénierie pour d'autres artistes, notamment Steel Pulse. Peut-être que je m'égare un peu, je sais pas. Enfin, en tout cas, t'as fait des choses avec ce groupe-là.
Avec Steel Pulse en eux-mêmes, non, mais avec leur ingé son, voilà, oui. C'est ça. Avec Derek Parker, Dr. Dubenstein, vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est qui ça. Est leur ingé son américain, qui était venu en France et qui jouait à l'époque avec mon ancien backing band. Et du coup, on a super bien, on a eu un super bon feeling. Et puis,
ouais, c'est pas rien parce que c'est une figure notoire dans la place et du coup d'être comme ça avec lui, enfin. Voilà, là tu bosses pas avec changes de galaxie, quoi.
Ah bah là j'ai changé de galaxie, ouais. Et puis du coup on avait même tourné un clip parce qu'il m'avait demandé d'écrire comme il sortait un album international, il voulait un morceau en français. Et il me dit, écoute, est-ce que tu serais ok? Je lui dis d'accord et tout. Et puis il m'envoie sa production et puis il me dit mais je veux pas que tu chantes. Ah, mais tu veux que je fasse quoi alors? Il me dit je veux que tu racontes une histoire. Ah, en français, ouais. Et quelle histoire? Eh ben, il fait l'histoire du dub. Ok. Donc, ça a donné sur son album, ça s'appelle Black Dragon Society Dub. Et donc, je raconte en français l'histoire du dub. Et puis, elle est venue pas mal de fois en France. Donc, on a passé quand même pas mal de temps ensemble. On a bien déconné. On avait même tourné un clip. Mais en fait, je sais pas pourquoi il est jamais sorti. Mais ouais, c'est l'ingé son de Steel Pulse, quoi. Tu vois, c'est pas. Ça m'avait troué le cul quand même, si je puis dire entre guillemets.
On nous a gentiment filé une instru d'un titre qui s'appelle Funky. Alors j'ai un accent jamaïcain pour lingue. Funky Road Rhythm. Est-ce que on pourrait avoir un petit live ici en direct dans le studio de Radio Campus?
Allez, ouais, on va essayer de voir. Funky Road qui a été donc fait par Jérôme Blainville du label Diff Record et qui s'appellera Crazy World sur mon album.
Allez, voilà, c'est parti.
Crazy World. We're living in a crazy world called Babylon by the Rastas. This world is crazy, utterly crazy. We're going crazy. The world is topsy-turvy, don't worry, be happy. What's the difference between the moon and the finger? In a Chinese proverb you can find the right answer. Smiling like a moron will never make you wiser. Welcome in the funny new world order. The values are reversed, how did this happen? Many are called but the fool is always chosen. Money has taken hold of the world's citizens. The common sense has been forgotten. Nothing matters as long as it makes money. That's how it goes in the consumer society. Remember that you're the product when it is free. Who's going to get screwed? Who tell me? This world is crazy, utterly crazy. We're going crazy. The world is topsy-turvy, don't worry, be happy. This world is crazy. Propaganda is always around. Reality TV show dumb people down. Social networks create a false sense of freedom. Opinion leaders influence your action. And life is a fucking illusion. In all this bullshit or not, you end up loony. It seems that intelligence has left humanity. We cut off our nose to bite our face. Might it be the great reset of a human race? This world is crazy, utterly crazy.
Radio Campus.
Ouah, chaud. Chaud, et en plus, chapeau, parce que c'était. On t'a pris complètement là. on t'a prévenu dernière, dans les dernières secondes. Voilà, il y avait un live. C'était comme ça. On l'a filoché comme ça. Et bah donc, si vous avez kiffé et que vous avez envie d'en avoir un peu plus, il y a un album à sortir. À quelle date déjà ?
Le 10 mai.
Le 10 mai, chez Diff Records.
Alors, il va sortir sur mon site internet www.nestalion.com et après, il sera sur toutes les plateformes de streaming.
Ok, et puis pour ceux qui veulent te voir en live, donc une date tout bientôt la semaine prochaine, en fait.
Samedi de la semaine prochaine, samedi 30 avril à partir de 19h30 à Arcopol, 4 rue Germaine Richy à Tourneur. En première partie, l'artiste J, spécialement venu de la région des Pays de la Loire pour faire la première partie. Et puis donc avec mon backing band, on vous présentera donc ce nouvel album. Je rappelle qu'il y a des places en vente sur www.nestalion.com et au bar La Belle Époque, rue du Commerce à Tours, le lundi, mercredi et jeudi entre 13h et 20h. Voilà.
Et puis suivre l'actu pour voir s'il y a des dates après à venir dans la saison, dans la saison estivale, parce que a priori il y en aura.
Il y en aura.
Et puis et ben pour les auditeurs sinon qui ne pourraient se déplacer, sur le site internet de Radio Campus Tours, très vite le podcast de cette émission à retrouver en rediff dès demain matin 8h15. Les titres de partout l'album de Nestalion sont déjà dans la boucle en rotation sur Radio Campus Tours. Merci à toi d'être venu.
Bah, merci à vous de m'avoir reçu, c'était super. En plus d'être avec des vrais connaisseurs de reggae, ça fait plaisir. Merci à toi Axel et
Seb.
Ouais, toute nouvelle équipe du coup à Radio Campus, donc c'est la première fois qu'on se rencontre.
Voilà.
Mais c'est cool en tout cas. Merci à vous de m'avoir invité.
De rien. Allez, à très vite. Retrouvez-nous sur Radio Campus Tours.